Bleu, RCFM. France
Bleu. RCFM, Christine Aloudzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans les experts, mais quel plaisir de vous accueillir en cette fin de semaine pour votre dose de conseils et de bonne humeur. Toute l'équipe est là avec moi, Nathalie au standard, Jean-Michel Tombigne à la technique. On parle aujourd'hui de nomophobie, no mobile phobia, la peur d'être sans son téléphone. Vous êtes en voiture, là, vous dites, mon Dieu, je suis concernée. Je crois qu'on l'est tous. C'était d'ailleurs la peur et le mot de l'année 2018. Je serai en compagnie aujourd'hui d'Amandine Luquiens, qui est psychiatre et addictologue, pour parler nomophobie. C'est notre dossier du jour.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Aloudzi.
On dit de lui que c'est notre doudou de notre époque. Il ne quitte pas ou rarement. Il nous est devenu indispensable. Le smartphone a pris une importance considérable dans nos vies. On a peur de le perdre, de se le faire voler. On angoisse dès qu'il est loin de nous ou que ça ne passe pas. On appelle ça la nomophobie. Ça devient même un motif de consultation chez les psys. On a plein de questions pour vous, Amandine Luquiens. Vous êtes psychiatre et addictologue. Ravie de vous accueillir. Bonjour.
Bonjour.
Alors Amandine, on va rentrer vite dans le vif du sujet parce que j'ai reçu beaucoup de questions. J'ai des appels déjà au standard. Qu'est-ce que la nomophobie ? No mobile phobia, donc c'est la peur d'être sans son téléphone. Mais encore au niveau de la psychiatrie, qu'est-ce que la nomophobie ?
Alors déjà au niveau de la psychiatrie et de l'addictologie, la nomophobie en elle-même n'existe pas.
Ouais. Donc elle n'est pas considérée, elle n'est pas inscrite encore je dis parce que ça va peut-être venir, mais dans votre référentiel.
C'est ça, en fait on considère que c'est un gros amalgame de plein de choses, qui certaines se ressemblent et certaines sont assez différentes. Et donc il faut être un petit peu plus précise quand on parle de crainte de pas être avec son téléphone, surtout pour savoir qu'est-ce qu'on fait en fait d'habitude sur son téléphone et qu'est-ce qui va poser problème.
C'est ça qui rend addict ou c'est vraiment la peur d'être sans son téléphone de.
Alors en fait il y a des choses vraiment très très différentes. Le téléphone c'est un support, c'est un objet, donc effectivement qu'on a pris l'habitude d'avoir souvent sur soi. Donc il y a des compréhensions presque transhumanistes en fait de ce lien avec ce téléphone, qui considèrent que c'est un peu un prolongement de soi, finalement presque de façon un peu extrême un bout de soi-même en fait, puisqu'on en est devenu dépendant, non pas au sens de l'addiction mais au sens où on a pris l'habitude de s'en servir régulièrement pour des tâches du quotidien, par exemple s'orienter,
pour tout, en fait.
Fixer un rendez-vous, s'organiser. Donc ça c'est-à-dire c'est un peu comme si j'avais un assistant personnel. D'ailleurs il y a des applications en fait qui se dénomment carrément comme ça.
Oui.
Donc on s'appuie là-dessus pour s'organiser mieux et donc pour être plus performant. Donc c'est dans cette lignée-là en fait un peu transhumaine où on va optimiser l'humain qui a ses défaillances en termes de mémoire, etc. Et on va être plus performant grâce à son téléphone. Donc certains considèrent que du coup en fait ça nous rend moins performants individuellement parce que par exemple pour les personnes nées avant les années 80, on va dire, on pouvait se poser un rendez-vous, se rappeler à quelle heure on avait rendez-vous, où on avait rendez-vous, on n'avait pas besoin de s'appeler au dernier moment pour savoir où on devait se rencontrer, donc on pouvait faire sans. Donc voilà, ça c'est deux visions un peu, mais qui sont vraiment finalement un peu de la sociologie, de la façon dont on conçoit l'objet, dont on conçoit qu'on doit être ou non complètement indépendant d'un objet, ou qu'au contraire, c'est plutôt bien de pouvoir être plus performant avec quelque chose. Mais là, on n'est pas du tout dans le registre de la psychiatrie ou des addictions. Mmh. Et quand les personnes présentent une demande en fait par rapport à une souffrance vis-à-vis de l'usage du téléphone, on va pas se contenter en fait seulement de savoir que ils ont une souffrance avec leur téléphone, mais on va leur demander mais en fait qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone, quel est l'usage de votre téléphone. Et donc au-delà du téléphone, on peut avoir des activités connectées ou non sur son téléphone, et les activités connectées elles peuvent être de différents registres. Ça peut être des jeux en fait en ligne, ça peut être des jeux d'argent, ça peut être des réseaux sociaux par exemple.
Donc en fait l'addiction, si je résume ce que vous dites, c'est que l'addiction en fait elle n'est pas forcément au mobile mais à ce qui se passe dedans.
Alors déjà c'est pas forcément une addiction, et en plus quand il y a une addiction effectivement elle est plutôt il faut absolument se poser la question de à quoi on est potentiellement addict, si addiction il y a. Effectivement.
C'est un motif de consultation, Amandine, aujourd'hui. On vient vous voir en disant, est-ce que je suis addict à mon téléphone ?
Alors, ça peut être un motif de consultation. Souvent, les motifs de consultation, ils arrivent un peu flous aussi pour des personnes qui sont en difficulté et qui savent pas forcément bien où déposer cette demande. Donc, on a beaucoup de parents qui amènent leurs enfants, par exemple. Ils disent, il est tout le temps accroché à son téléphone. Et donc, effectivement, la première question qu'on pose, mais qu'est-ce qu'il fait sur son téléphone? Parce qu'il s'agit pas juste d'être accroché à son téléphone. Par exemple, on peut lire un livre ou lire son magazine, en fait, sur un téléphone maintenant. Oui. Donc, c'est totalement différent si je lis le magazine auquel je suis abonné sur une plateforme qui me met à disposition des PDF ou via la médiathèque de ma ville et si je joue à Candy Crush toute la journée ou si je suis accroché à un réseau social toute la journée. En fait, l'activité cérébrale, quoique on va avoir l'activité du cerveau sur ces différentes activités, n'a rien à voir, est complètement différente. Et donc va impliquer des processus complètement différents. Certains sont pourvoyeurs de dépendance et d'autres absolument pas. Il s'agit juste d'une évolution sociétale, en fait, d'un support qui propose différentes applications.
Mmh. 04 95 32 22 22, hein, si vous voulez poser toutes vos questions à notre invitée Amandine Lucquens, qui est psychiatre et addictologue. On parle aujourd'hui des addictions, des nouvelles addictions ou pas d'ailleurs, aux mobiles et aux écrans. C'est quand même, il y a quand même un phénomène de société, parce que je lisais hier une étude américaine qui disait que, par exemple, un tiers des utilisateurs de mobiles préfèrent se passer, en parlant de sexualité, de sexe pendant une semaine plutôt que de leur smartphone chaque soir. Plus grave encore, 63% étaient plus à l'aise avec Internet qu'avec leur partenaire. C'est quand même révélateur de certaines choses.
Oui, alors après, c'est des questions qui sont un peu piégeuses, parce que, par exemple, certaines personnes ont vraiment besoin de leur téléphone comme d'un outil de travail. Donc, vous demandez à des gens, c'est un peu la question, est-ce que vous préférez mourir écrasé par un camion ou déchiqueté par un ours? Donc, comment répondre à cette question? Ça dépend des obligations qu'on a. Effectivement, si par exemple notre travail dépend de notre téléphone, on va pas prendre le risque de perdre son travail et on va se dire, je vais être privé de sexualité pendant une semaine. Mais je pense que la question est quand même vraiment pas forcément très réaliste et posée en termes un peu spéciaux.
Non, mais parce que j'avais des questions là-dessus et du coup j'ai été chercher ça, mais c'est vrai que c'est quand même révélateur. Mais moi, la première, hein, j'ai sans parler de ce sujet, mais c'est vrai que mon téléphone, c'est dans le prolongement de mon bras. Je l'ai tout le temps pour le travail, pour tout, et c'est super. C'est très, on va dire que c'est devenu le prolongement de mon bras complètement. Donc après, est-ce qu'on peut parler d'addiction ou pas? Je sais pas, mais parler d'addiction, c'est quand ça perturbe notre quotidien.
Alors, donc l'addiction, dans tous les cas, que ce soit une substance ou un comportement, il y a deux critères dont on ne peut pas se passer pour parler d'addiction. C'est qu'il faut qu'il y ait une souffrance liée à l'usage, ou donc que ce soit d'un produit ou d'un comportement, et il faut que ça altère mon fonctionnement. Donc si mon téléphone me permet d'être plus performant et que ça ne me pose aucun problème, alors en aucun cas, quel que soit l'usage que j'en fais, on va pouvoir parler d'addiction.
D'accord. Il n'y a pas un
si,
temps,
par contre, c'est-à-dire je suis toute la journée sur les réseaux sociaux et que à la maison je suis toute la journée sur les réseaux sociaux et que plus personne ne peut parler avec moi. Alors là, on va pouvoir se poser la question, sachant que l'addiction aux réseaux sociaux n'est pas du tout reconnue et qu'on est très très prudent à ce sujet au niveau des experts dans le champ au niveau scientifique. Et d'ailleurs, les dernières publications parlent en fait non pas d'addiction mais d'usage excessif ou intensif des réseaux sociaux, si on parle des réseaux sociaux.
D'accord.
Après, c'est de la même manière, si je suis toute la journée en fait sur un jeu vidéo, que ce soit sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, souvent on peut prolonger en fait le jeu sur un dispositif ou l'autre de façon indifférente, là en fait vont se poser aussi d'autres questions d'un investissement excessif et là peut-être même d'une addiction aux jeux vidéo. Et de la même manière, si je place des paris toute la journée sur une application mobile, que ça fait intrusion dans mon travail, que je ne peux plus me concentrer, là, en fait, oui, j'ai une altération du fonctionnement à cause d'un usage particulier sur mon mobile.
Ça serait une autre addiction. En fait, on en a parlé, hein, d'addiction au jeu. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté notre émission, vous pourrez la retrouver sur notre site internet France Bleu RCFM. Du coup, ça serait une addiction qui en entraîne quelque part une autre.
Alors en fait, c'est moi je pense, enfin on est beaucoup d'experts à considérer que on peut pas être addict à son téléphone ou à son ordinateur, comme on n'est pas addict à un livre. Enfin, vous voyez, c'est un objet en fait. Donc c'est vraiment la majorité maintenant des experts, je pense. Après, il y aura peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, mais considèrent que il faut vraiment savoir ce qu'on est en train de faire dessus et qu'on n'est pas vraiment dépendant à un objet, mais qu'on va être dépendant à une application, par exemple, sur un objet. Donc en fait, à une activité, il faut voir quelle est l'activité et non pas l'objet.
J'ai bien compris.
Quand vous êtes dépendant à l'héroïne, vous n'êtes pas dépendant à votre seringue, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Vous êtes dépendant à la substance que vous allez mettre dedans. Donc c'est voilà. Après c'est vraiment grossier ce que je veux dire, mais il faudrait en parler beaucoup plus longuement, mais en gros voilà, l'idée elle est quand même un peu là dans toutes les manières. Et donc c'est aussi un message à passer aux parents, c'est que quand vous voyez, donc déjà effectivement il y a des recommandations sur l'usage d'internet, mais aussi sur faut toujours s'interroger, est-ce que mon enfant a vraiment besoin d'avoir un téléphone?
Je lisais hier que le premier téléphone mobile, l'obtention en 2018, l'âge moyen d'obtention de son premier portable, c'était 11 ans et demi. C'est tôt, non?
Oui, c'est très tôt. Et souvent, on va acheter un téléphone mobile avec plein de bonnes intentions et souvent, d'ailleurs, sécuritaire, en fait, en se disant, mon enfant revient seul de l'école, donc je lui prends un téléphone. Mais pensez que quand on était petit, on rentrait de l'école sans téléphone dans la poche et on arrivait quand même chez soi. La plupart d'entre nous, ça se passait quand même plutôt assez bien. Donc, est-ce que on a vraiment besoin, en fait, d'avoir ce téléphone-là? Ça, c'est vraiment la première question. À quel âge, en fait, un enfant a vraiment besoin d'avoir un téléphone?
Mais qu'est-ce que vous conseilleriez, vous?
Quand est-ce qu'on lui laisse à disposition?
Oui, c'est ça.
Il peut avoir un téléphone pour rentrer d'école si vraiment vous considérez qu'il y a un danger particulier, sachant que encore une fois, il est probable qu'il n'y en ait pas. Mais dans ce cas, il peut l'avoir uniquement pour ses trajets et une fois à la maison, il n'en a plus besoin. Donc voilà, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser pour que l'enfant sache s'organiser aussi par lui-même et sans avoir tout le temps un backup, en fait. Comme on fait nous, voilà. Parce que nous, on a quand même appris à le faire quand on était petit.
Mais donc, ça veut dire que quelque part, ce phénomène, entre guillemets, je sais que vous n'aimez pas le mot, mais entre guillemets phobique, qui existe aujourd'hui, il va être encore plus massif dans les années à venir.
Alors, il y a des évolutions en fait de comportement, donc il faut surtout pas se situer dans un jugement moral ou
pas du tout, mais
un usage. C'est sûr que les usages évoluent et donc nos enfants sont pas dans la même société, les mêmes usages, il y a pas la même technologie à disposition que comme nous on était enfants ou les parents de maintenant étaient enfants ou même les grands-parents. Donc il y a des évolutions sociétales massives avec les évolutions technologiques qui sont inévitables et qui probablement aussi peut-être vont impacter la façon dont peut-être le développement cérébral se fait et certaines fonctions en fait vont devenir plus ou moins performantes. On n'en sait rien, c'est tout à fait possible.
C'est dans cette évolution, l'évolution elle est comme ça, hein. Mais je le disais quand même, des chiffres qui sont quand même parlants, hein. Hier, un sondage pour Internet Project qui disait que 67% des personnes interrogées possédant un téléphone portable avouaient regarder leur téléphone pour vérifier si elle n'avait pas de messages, d'appels, de textos, même quand aucun signal ne retentissait. 44% disent dormir avec leur téléphone portable à côté du lit ou sous l'oreiller pour ne rien rater. Et pire, 29% disent de ne pas pouvoir s'imaginer sans leur téléphone. Est-ce que l'impact qu'a le téléphone sur nos vies fait que certains d'entre nous sont devenus complètement esclaves?
Alors, donc ça, en fait, on touche au point qui est principalement problématique quand on va parler, la plupart du temps quand on parle de nomophobie ou de dépendance au téléphone. C'est ce qu'on appelle la fear of missing out, donc c'est la peur de rater quelque chose quand on n'est pas là.
Oui, c'est ça.
Donc c'est souvent, on décrit ça par rapport aux réseaux sociaux, mais effectivement les réseaux sociaux au sens hyper large, donc plein d'applications, que ce soit Twitter, Facebook, Snapchat pour les plus jeunes, selon l'âge que vous avez, vous allez plutôt vous tourner vers une application ou une autre. Et effectivement, ça peut être aussi d'ailleurs des conversations sur des plus du registre du chat sur des réseaux
WhatsApp,
sécurisés comme WhatsApp ou Telegram. Donc effectivement, on peut voir ça, et on peut voir ça donc chez les adultes, mais aussi chez les enfants qui, quand ils en ont déjà l'usage. Et donc c'est effectivement un des points de vigilance à avoir, c'est de pouvoir en fait supporter qu'il se passe des choses, mais que je ne sois pas au courant, et que finalement il va sûrement rien se passer de très grave. La plupart du temps, si je regarde que 3 heures plus tard mon téléphone, ou si je le rallume que le soir, par exemple, quand je suis un enfant, j'ai pas besoin de l'allumer dès que je me réveille. Les autres enfants ont probablement dormi en même temps que moi, en fait. Donc, il s'est rien passé. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose auquel, pour le coup, là, il faut être vigilant et, en fait, s'habituer régulièrement à supporter, en fait, de pas regarder tout le temps son téléphone. Il y a en fait des études qui ont montré, pour le coup, que de se priver de réseaux sociaux entre guillemets pendant quelques jours faisait diminuer considérablement le taux de stress en fait perçu par les personnes. Donc on peut, donc sans parler d'addiction, en fait, le fait d'être sans arrêt un peu sur le qui-vive, à savoir s'il va se passer quelque chose ou si j'ai raté quelque chose.
Est-ce en fait, j'ai loupé un like.
Avant le stress. Voilà, loupé un like. Donc c'est vrai que on s'expose en fait artificiellement à un certain degré de stress qui finalement est inutile. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que quand vous vous privez quelques jours, très rapidement, ce niveau de stress en fait perçu va diminuer, et notamment chez de façon plus importante chez les usagers un peu excessifs en fait de ces réseaux sociaux. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire marche arrière.
Voilà, c'est possible. Il n'y a pas besoin d'avoir un traitement particulier ou La plupart du temps. Une question de Maryse qui nous dit « On peut dire que cette dépendance au smartphone est plus souvent le fruit d'une carence, je pense notamment aux réseaux sociaux par exemple, qui répondent à 3 besoins, un attachement, l'appartenance à un groupe et la reconnaissance. »
Alors, je pense qu'il faut être prudent en fait, chacun peut avoir son avis, hein, mais la plupart des adolescents se servent en fait des réseaux sociaux et sont aucunement dans une situation de carence. Donc, on est sur une évolution en fait des modes de communication qui répondent pas forcément à une carence, et au contraire, il y a même des études à l'inverse qui ont montré que l'usage d'Internet dans son ensemble en fait augmentait la sociabilité et la communication même au sein des familles. C'est-à-dire qu'en fait, on communique plus dans les familles depuis que, par exemple, il y a des fils familiaux sur WhatsApp, etc. Donc, encore une fois, il n'y a pas de diabolisation sur un type d'usage à faire, de forcément de situation de carence ou de se dire voilà, si j'ai tel usage, c'est forcément pour les. Après, quand on parle d'un usage excessif, en fait, effectivement, on peut se demander, mais comment ça se fait qu'on a tout le temps besoin? Donc, soit il y avait quelque chose au départ qui nous rend spécialement dépendants sur le plan affectif, quoi, entre guillemets, soit en fait, on a construit ça parce qu'on s'est juste habitué, effectivement. Voilà. Donc, après, il y a des questions plus, je dirais, un peu philosophiques, quoi. Du registre de peut-être du narcissisme extrême poussé par ce type de certaines applications. Par exemple, on va sans arrêt se prendre en photo, ou on est devant un paysage et on va se prendre soit en photo devant le paysage pour l'envoyer à d'autres personnes.
Oui, cette mode des selfies.
Des questions un peu sociologiques, quoi.
Oui.
Poser sur sur qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi, à ce moment-là. Est-ce qu'on est vraiment dans le moment présent? Et encore une fois, de revenir sur mes perceptions de l'instant, de qu'est-ce que je ressens moi, qu'est-ce que j'ai comme expérience en fait en ce moment. Et j'ai pas forcément besoin tout de suite de la partager avant même de savoir ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est des questions plus de problèmes de prévention en termes de santé, de bien-être et peut-être même de santé mentale.
François nous dit vous parlez de selfie, est-ce que ça ne témoigne pas de ce narcissisme assumé par les utilisateurs des mobiles qui ont besoin d'exister en permanence?
Donc c'est un petit peu ce que je viens de dire, effectivement.
Oui.
Sans être dans un jugement moral, c'est plus encore une fois dans le registre de la prévention, quoi, de pas être sans arrêt dépendant des autres. C'est quand même un gage aussi de pouvoir être soi-même dans son expérience avec son propre avis, sans exposer en fait au jugement des autres. Et je pense qu'effectivement, en termes de prévention d'intégrité psychique, c'est quand même une démarche qui est à favoriser, quoi. Donc à pas forcément soumettre tout le temps son expérience à celle des autres et au jugement des autres, mais aussi pouvoir le faire confiance en fait à ce que je suis en train de vivre moi et à le mémoriser moi-même avec la façon dont je vais m'en souvenir en profitant pleinement au moment où je suis en train de vivre.
04 95 32 22 22 pour poser toutes vos questions. Amandine Lequins, psychiatre addictologue. On parle aujourd'hui des addictions ou pas d'ailleurs, aux mobiles et aux écrans. Amandine, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les utilisateurs n'acceptent plus d'être frustrés et qu'avec les smartphones, ils ont vraiment tout de suite et maintenant, et que ces jeunes adultes qui ont un smartphone, ils connaissent pas ce sentiment de frustration, ou du moins très peu?
on peut toujours être frustré. On s'habitue en fait à la rapidité. Les gens vont être frustrés parce que le réseau est trop lent.
Oui, c'est ça. Donc ça ne passe pas bien.
Voilà. Donc du coup, je ne sais pas si la société actuelle n'est pas assez frustrée. Je n'irai pas jusque là.
Alors, on a un message qui nous dit « C'est un petit peu dû à ce monde dans lequel on vit. Où tout va plus vite, on ne veut vraiment rien manquer. Un bip, c'est le signe qu'il faut voir de quoi il s'agit sur l'écran, qui s'allume, qui clignote, ça attire l'œil humain, ça attire notre curiosité. Est-ce que du coup, c'est un vilain défaut ?» Oui, c'est un peu ce qu'on disait.
Oui, c'est un peu ce qu'on disait. Et puis, il faut voir aussi, en fait, qu'évidemment, c'est un peu comme toujours, il va y avoir un usage qui se développe dans la société avec une technologie, avec plein de potentialités. Voilà, super. Et puis, il y a certaines personnes qui vont être un peu plus vulnérables et qui vont être laissées sur le garrot par cet usage qui va les enfermer. Donc, c'est là, en fait, où il faut être vigilant. Et on sait, par exemple, que, enfin, il a été montré récemment, donc s'intéresse de plus en plus au fonctionnement cognitif, en fait. Donc, au fonctionnement du cerveau lui-même, oui, en fait. C'est des personnes qui vont avoir un usage excessif de telle ou telle application. Donc, par exemple, c'est juste pour vous donner un exemple, oui. Il a été montré récemment que les usagers excessifs de réseaux sociaux, en fait, souvent, quand on leur fait une tâche où on évalue la façon dont ils prennent des risques dans certaines situations et dont ils arrivent surtout à prendre des décisions dans des situations risquées, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient un usage excessif des réseaux sociaux, souvent, étaient des personnes qui, dans une situation d'incertitude et qui les exposaient à un certain risque, prenaient plutôt les décisions les plus risquées. Donc, c'est un type de fonctionnement cognitif dont on sait qu'il peut être associé, par ailleurs, à d'autres vulnérabilités, comme les addictions, comme d'autres choses. Donc, en fait, les gens qui vont rentrer trop dans l'usage, souvent, pas systématiquement, mais en fait, ont des petites vulnérabilités en dessous ou un fonctionnement particulier qui va faire que, bah, du coup, là, l'investissement va devenir massif parce que, en fait, effectivement, cette rapidité, par exemple, et une certaine dose d'impulsivité, en fait, dans l'usage, est permis, en fait, par la rapidité, par ces modes de réseaux sociaux. Donc, du coup, en fait, je vais m'engouffrer très rapidement là-dedans parce que, bah, effectivement, je peux faire des choses très vite de façon impulsive, y compris si, en fait, elles sont un peu risquées pour moi, notamment si j'ai réfléchi ça à deux fois par rapport aux implications de ce que je viens de dire, ou de choses comme ça, ou de photos que je poste.
Bien sûr.
Et donc, c'est des personnes qui vont peut-être avoir une certaine vulnérabilité à ce sujet-là qui vont, en fait, faire peut-être les choses les plus risquées et avoir l'engagement le plus important sur ces sites. D'où, en fait, avoir quand même une éducation, en fait, à l'utilisation de tous ces réseaux sociaux, par exemple, pour prévenir et protéger, en fait, les personnes qui seraient les plus vulnérables et qui pourraient prendre des risques malgré eux.
Voilà, c'est comme pour les autres addictions. 04 95 32 22 22. On va faire une petite coupure. On va regarder on va jeter un œil du côté du temps. On va faire un petit point sur l'actualité. Et puis, on revient avec vous, Amandine Lucquens, pour parler nomophobie aujourd'hui.
Les chansons d'amour avec dedans des mots d'amour. Les chansons qu'on dit d'amour, t'as toujours été pour. Je t'emmènerai au bord de la mer, respirer l'air de la mer. Comme tu dis, pour changer d'air, y'a pas mieux que la mer. Si tu veux changer de coiffure, je t'emmènerai au salon de coiffure. Je t'offrirai de jolies chaussures, des sapes sur mesure. Je t'inviterai au restaurant qui mettent les petits plats dans les grands.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Pierrette Lavigne, à Mimizan, dans les Landes, nous dit pourquoi.
J'ai une vue faible et particulière et ils ont été vraiment à mon écoute pour me trouver les verres adaptés à ma vue. Et puis, je porte des verres progressifs dont on m'a pris les mesures avec une colonne iCode. C'est très précis. Je n'ai aucun problème depuis que j'ai cette paire de lunettes. Je me suis adaptée immédiatement. Et en plus, mon opticien m'a fait bénéficier de l'objectif zéro dépense et c'est appréciable, bien sûr.
Benjamin Bénard, l'opticien Optique 2000 de Madame Lavigne, à Mimizan.
Pour nous, le plus important, c'est de bien accueillir nos clients pour découvrir ce qui correspond à leurs besoins et leur proposer des montures et des verres qui répondent pleinement à leurs attentes. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tous les papiers.
Alors, Madame Lavigne, contente d'Optique 2000 ?
Complètement. Et en plus, il s'occupe de tout.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositif médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Une question, docteur Lemaire, médecin esthétique, partenaire de Philorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. À partir de 50 ans, comment lutter contre les signes du vieillissement ?
En cabinet médical, nous associons plusieurs techniques pour une action anti-âge globale. Une approche dont Philorga s'est inspirée pour développer Global Repair, des crèmes anti-âge multi-intensives.
Et ça marche ?
Oui, cela a été testé sous contrôle médical. Avec la crème Global Repair, la peau paraît 5 ans plus jeune.
Global Repair, jugé plus efficace qu'un anti-âge classique par 76% des femmes. Détails de l'étude sur philorga.com.
Le 6 octobre, la Massif est partenaire de la Journée nationale des aidants et leur donne le pouvoir d'être accompagnés. Retrouvez les événements organisés par la Massif sur le site avec-les-aidants.fr.
Vous rénovez votre maison, venez bénéficier de conseils neutres, gratuits et personnalisés pour économiser l'énergie. Particulier ou professionnel, le réseau des espaces info-énergie de Corse répond à vos questions en matière d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable ou d'aide financière. Vostro spazio info-énergie accompagna e vi sostiene in der rinnovazione e l'ameliorazione energetica di vostro alloggio. Soutenu par l'ADEME et l'Agence d'aménagement durable d'urbanisme et l'énergie de Corse, les espaces info-énergie sont membres du réseau Rénovation Info-Service. Info au 04 95 72 13 25 ou sur infoenergie-corse.com.
La météo avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
Un petit coup d'œil du côté du temps, c'est un temps plutôt agréable qui se déroule. Le soleil domine largement, mais il est parfois contrarié par quelques nuages. L'après-midi jusqu'en début de soirée, vent s'établissant à l'ouest, à sud-ouest modéré sur la montagne et l'ouest du département. Température maximale entre 21 et 23 degrés et 16 degrés sur le relief. RCFM, il est 10h. Sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, avec un coup de chaud hier dans les quartiers sud de Bastia, un incendie dans un immeuble peu avant 19h. Le feu a pris dans une gaine électrique au 6e étage du bâtiment 33D de la cité Aurore. Les pompiers sont intervenus rapidement, le feu a été éteint un peu après 20h. Une personne a été hospitalisée, incommodée par la fumée. Le gaz et l'électricité ont été bien sûr coupés dans l'immeuble, d'où la nécessité de reloger 34 personnes au moins pour la nuit. L'autonomie énergétique de la Corse d'ici 2050, toujours l'objectif, c'est ce qui a été réaffirmé hier lors du Conseil de l'énergie, de l'air et du climat, en présence de tous les acteurs concernés, État, collectivités, EDF, mais aussi syndicats et associations environnementales. Il fallait faire suite au protocole d'accord signé cet été lors de la visite du Premier ministre. La directrice de l'énergie l'a réassuré. Le projet de la future centrale du Récanto verra bien le jour. Et dans les délais impartis, elle sera livrée au plus tard en décembre 2023 et fonctionnera au gaz naturel. Une feuille de route et un calendrier précis ont été approuvés à l'unanimité. Une étude maintenant est en cours pour le financement qui devrait se situer a priori aux alentours de 500 millions d'euros. Morad Hamdouni, champion d'Europe du 10 000 mètres, ex-pensionnaire du club de Bigoul, à la JB, soupçonné de dopage par la chaîne allemande ARD. Il assure n'avoir rien à voir avec cela. Ce n'est rien, il n'y a aucun fait, a affirmé Hamdouni, alors que ARD a révélé que des soupçons pèsent sur le français en faisant état de messages WhatsApp dans lequel un fournisseur de produits dopants lui réclame un paiement pour de l'EPO et de l'hormone de croissance, 150 euros. L'Agence française de lutte contre le dopage a indiqué qu'elle enquêtait sur l'athlète en toute confidentialité. La Fédération française d'athlétisme, elle, appelle à la prudence et à la présomption d'innocence tout en prenant très au sérieux les accusations. Le football, Lorient ACA, c'est le choc de la 10e journée de championnat ce soir. C'est simplement le premier contre le deuxième dans cette affiche entre Bretons et Corses au stade du Moustoir. C'est un gros test pour les joueurs d'Olivier Pantalone à partir de 20h à suivre sur RCFM avec Paul Boeck. Et puis pendant cette retransmission en intégrale, vous pourrez également suivre l'évolution des deux matchs de National qui nous intéressent et qui débutent également à 20h. GFCA Cholet, c'est à Metzavir. Puis il y a aussi le match Béziers-Bastia-Borgo. Deux rencontres sur lesquelles nous reviendrons entre 12h et 12h30.
Merci Didier Arnoux. On vous retrouve à 11h pour un prochain point sur l'actualité.
France Bleu RCFM, mardi, les petits déjeuners, c'est avec Julie Benetti. La rectrice de l'Académie de Corse sera avec nous de 7h à 8h10 pour commenter l'actualité et parler de son actualité. Un mois après la rentrée scolaire, comment va l'éducation nationale en Corse? Comment vont les profs? Comment vont les élèves? On dit que l'école, c'est le témoin, le reflet d'une société. Alors le regard de Julie Benetti sur la société insulaire, c'est mardi 8 octobre, 7h, 8h10 sur RCFM, la radio, Bleu RCFM et nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
Une question au docteur Lemaire, médecin esthétique, partenaire de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. À partir de 50 ans, comment lutter contre les signes du vieillissement?
En cabinet médical, nous associons plusieurs techniques pour une action anti-âge globale. Une approche dont Filorga s'est inspirée pour développer Global Repair, des crèmes anti-âge multi-intensives.
Et ça marche?
Oui, cela a été testé sous contrôle médical. Avec la crème Global Repair, la peau paraît 5 ans plus jeune.
Global Repair, jugé plus efficace qu'un anti-âge classique par 76% des femmes. Détails de l'étude sur filorga.com.
France Bleu, RCFM. France
Bleu. RCFM, Christine Alouzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans les experts. Il est 10h passé de 3 minutes. On parle aujourd'hui de nomophobie. On dit de lui que c'est le doudou de notre époque. Il ne quitte pas ou très rarement. Vous avez compris, on parle du téléphone. Il nous est devenu indispensable. Il a pris vraiment une place considérable dans nos vies. On a peur de le perdre, de se le faire voler. On angoisse dès qu'il est loin de nous ou dès qu'on a un petit peu moins de réseau. Ça devient même parfois un motif de consultation chez les psys. On voyait avec Amandine que c'était pas si simple de parler de nomophobie, il y avait toutes sortes d'addictions qui pouvaient se greffer dessus. On va poursuivre notre débat avec vous, Amandine Luquiens, vous êtes psychiatre et addictologue, merci d'être avec nous ce matin. Alors juste avant la pause, vous nous parliez du fonctionnement un petit peu cognitif. Est-ce que on peut pas dire que c'est une sorte de conditionnement pavlovien, Amandine?
Alors c'est sûr que comme toutes les habitudes, en fait, les habitudes qu'on prend parce que, donc par exemple, de consulter son téléphone à tel moment ou à tel endroit ou avant de faire telle tâche, donc toutes les habitudes vont, enfin finalement quand elles s'ancrent, on peut parler de conditionnement. Donc c'est du conditionnement, quelque chose que je vais faire de façon réflexe sans même réfléchir et sans même parfois savoir exactement pourquoi. Donc je vais me retrouver avec le portable à la main à vérifier quelque chose et juste, voilà, j'en avais pas forcément besoin, je m'étais pas forcément posé la question même de ce que j'étais en train de faire. Après, c'est le conditionnement, c'est utile dans plein de situations, ça nous rend beaucoup plus opérationnels parce que ça permet par exemple en voiture de pas sans cesse réfléchir à ce que je suis en train de faire et d'être opérationnel. Donc le conditionnement en lui-même est pas problématique, mais quand il concerne un usage problématique, alors ça donne une possibilité de rompre le conditionnement et finalement une piste thérapeutique. C'est-à-dire, je vais me déconditionner et la première chose, bah, c'est par exemple d'arrêter l'usage, par exemple, pendant quelques jours et de voir ce qui se passe. Et souvent, comme on disait tout à l'heure, bah, le niveau de stress perçu va diminuer et en fait, je vais rapidement pouvoir casser ce conditionnement.
Vous n'êtes pas si alarmiste que ça finalement, parce que aujourd'hui on pourrait l'être, on se dit mon Dieu, on ne peut pas sortir sans, il fait tout le temps qu'on l'a à la main, et finalement, pour vous les scientifiques, je dirais, c'est plus un objet qui nous aide dans notre quotidien, vous le disiez, un assistant personnel, qu'une véritable addiction en fait.
Alors, encore une fois, moi je suis très sceptique sur la possibilité qu'on puisse être addict à un objet. Encore une fois, vraiment, je pense qu'il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on fait sur l'objet? Après, en fait, l'utilisation de l'objet peut être un signal pour l'extérieur, pour l'entourage par exemple, pour se dire, mais mince, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Par exemple, il y a beaucoup nombreuses études qui montrent que chez les jeunes, dès le lycée, ou même des étudiants, Mais on parle en particulier, enfin on est souvent préoccupé plutôt des adolescents, puisque c'est là aussi que l'usage parfois se met en place et des fois de façon excessive. Et donc là, il faut se poser la question, mais en fait, pourquoi je vois mon jeune tout le temps accroché au téléphone et pas en train de faire autre chose? Donc déjà, il faut lui demander ce qu'il est en train de faire sur le téléphone, vérifier qu'il s'expose pas aussi à des risques, par exemple en termes de contrôle parental, à des contenus qui seraient inadaptés pour son âge, etc. Mais aussi, ça a été bien montré dans des études, l'usage excessif en fait d'internet, notamment via les applications qu'on trouve sur les mobiles, sur les téléphones, est associé à la symptomatologie dépressive. Donc d'accord, ça c'est des choses qu'on retrouve de façon assez consistante dans la littérature. Donc ça peut être un point d'appel si vous voulez, quand vous vous dites mince, mon jeune a un problème, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement sur le téléphone, et voyez comment il fonctionne par ailleurs en fait. Est-ce que il fonctionne bien, comment ça se passe à l'école, comment il va, est-ce qu'il est souriant, est-ce qu'il est pas souriant, est-ce qu'il dort pas. Et c'est vrai que la première chose qui est de façon consistante associée avec un usage excessif en fait d'internet, notamment sur son téléphone, c'est une dysphorie, enfin donc une déstabilisation d'humeur, et il faut être particulièrement vigilant à ces mouvements-là chez les adolescents.
Oui, mais le fait d'être tout le temps sur ces écrans, on sait que ça perturbe le sommeil, donc ça peut aussi perturber notre humeur et faire boule de neige en fait.
Alors, parfois oui. Donc il y a des choses de prévention à mettre en place d'emblée, à se dire, c'est un peu ce qu'on disait, oui. Pourquoi un jeune a son téléphone la nuit, il se passe rien la nuit, il n'a pas besoin de discuter avec ses amis la nuit, pareil, enfin je veux dire, quand il n'y avait pas le téléphone, on ne se téléphonait pas avec nos téléphones accrochés au mur en pleine nuit quand on avait 14 ans, donc enfin en tout cas on n'était pas censé le faire, j'imagine. Donc faut toujours se poser la question de pourquoi est-ce que cet objet est à disposition, est-ce que c'est une bonne idée en fait en termes, mais là c'est de la guidance parentale. Donc ça, c'est plus des mesures de prévention.
Bien sûr. On est là aussi pour faire de la prévention. Hein.
Problématique, il peut s'associer à une privation de sommeil qui, en retour, en fait, éventuellement, va déstabiliser l'humeur. Donc parfois, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est quand même dans la plupart des cas, en fait, quand les gens se disent qu'il y a un problème, on n'est pas forcément déjà sur ce type de gravité, mais qui peut exister.
Bien sûr. Bon, on parlait tout à l'heure du fonctionnement cognitif, mais quand on voit qu'il y avait une étude qui était sortie par KBPC et qui révélait que les utilisateurs de smartphones consultaient leur appareil en moyenne toutes les 7 minutes 30, comment on fait, comment on prend le temps de réfléchir ou d'entamer une discussion ou de faire quoi que ce soit d'autre finalement, hein, si on détourne notre attention toutes les 7 minutes?
Alors, c'est vrai que du coup, ça, encore une fois, tout dépend. Enfin, les moyennes, tout dépend ce que vous êtes en train de faire sur votre téléphone et si vous en avez vraiment besoin. Si vous travaillez dessus, ça va perturber. Si vous êtes en train de parler et qu'en même temps vous regardez à votre téléphone, là, c'est effectivement votre cerveau à un moment bug et la double tâche, ça va jusqu'à un certain point.
Non, mais on le voit tous.
Je vais diviser mon attention.
On voit des gens au restaurant, des amoureux qui sont là, ils ont chacun sur leur téléphone, ils se parlent même pas.
Effectivement, peut-être que ça permet dans certaines situations d'être dans l'aversion aussi du moment que je suis en train de vivre, donc ça m'évite certaines situations. Donc il y a des choses qui sont du registre du conditionnement, on va faire quelque chose sans réfléchir et ça va perturber mon interaction sociale. Encore une fois, on revient à essayer de faire une chose à la fois pour être vraiment dans l'instant présent et être pleinement dans la conscience de ce qu'on est en train de vivre pour vraiment en faire l'expérience. Après, si je suis au restaurant avec mon compagnon et que j'ai ressenti tout le temps le besoin de regarder mon téléphone, c'est peut-être aussi qu'au fond, j'ai pas vraiment envie d'être à cet endroit-là. Donc, il faut aussi poser cette question.
Voilà. Vous n'êtes pas du tout addict à votre homme ou à votre femme.
Faites attention au restaurant. Après, il y a aussi des usages particuliers en fait du téléphone chez certaines personnes, par exemple, qui présentent un déficit de l'attention avec hyperactivité. Et donc, on sait que ça, c'est présent chez certains enfants, avec des prévalences quand même assez importantes, mais ça persiste aussi chez un enfant sur trois qui va devenir adulte, va garder ça à l'âge adulte. Et ce que je disais un peu tout à l'heure, il y a des vulnérabilités, des modes de fonctionnement cognitif qui vont en fait s'engouffrer beaucoup plus facilement dans ce type d'action, dans ce type d'activité, par exemple, d'aller regarder sans arrêt son téléphone, finalement, parce que d'être stimulé par des nouvelles des nouvelles informations, en fait, ça va m'aider à maintenir ma vigilance. Donc, quelque part, les personnes s'en servent comme presque de quelque chose qu'ils pensent adaptatif, en tout cas, qui se prête, qui colle hyper bien à leur mode de fonctionnement, mais qui, en fait, vont les pénaliser parce que ça va leur permettre encore moins de se concentrer sur quelque chose et surtout, ça va pousser à la procrastination. Donc, du coup, je vais être engouffrée, en fait, par ce nouveau flux d'informations qui, du coup, est assez agréable psychiquement parce que je ressens pas l'ennui et je ressens pas la fatigue, par exemple.
Ouais, c'est ça.
Mais au fond, ça m'empêche de me mettre dans une activité qui va me demander un peu plus d'efforts psychiquement, une concentration élevée. Donc, c'est des gens qui ont du mal à se concentrer. Ben, en fait, évidemment, ben, ces activités qui sont peu coûteuses, en fait, en termes de concentration, vont être beaucoup plus plaisantes.
04 95 32 22 22 hein, pour parler nomophobie aujourd'hui avec Amandine Lucquins. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après.
Chi bolighione via, miuda portuno, e di jacuzzi beccio, di gompa tutto mo. Come si morre appena, quando il coro un santa, a silenziosa pena, chi danna da regiante. E poi mi face male, quando vedo lo specchio, uso per acquisto, se compro a porti vecchio. Non tuole do gustere, splendi a rondinara, ma non rotto l'azzurro, porto i su lenzara. A calvi l'hanno tolto, a soia la sorgente, e a speculazioni all'estero residente. Reccia i mercanti n'ha fatto così impero, e mamma so per tutto, soccorso e ne so fiero. Aghille a cauno, alla terra e a Cina, all'uomo che piantava ricchezza divina, a perdene un solco, a perdene a rana. Contra una fontana stasera fammi moto o frate non t'aspetto in un palmo d'amore in un palminetto dimmi che alla davane il cuore è su in noi non mi ne stanco mai un testo di arrivo chi vuoi che tu sia che tu ti cala uno strugaulino a un battello di giunghe si affolla lo estimo e stringhia ma sella a dolci da giardino intanto che la sia un tempo di turisti e con tempo lo solo aspetta un domenistri dimmi che non ho poema Santa Crociata uscire cara viva se non è suminata dimmi che la davane in cuore su di noi non mi ne stanco mai un pezzo di arrivo stasera fammi morto o fratello d'aspetto in un palmo d'amore in un palmo d'amore in un palmo in etu.
Imouvrini, Beauté Fatale et Imouvrini qui sortent leur nouvel album. Ça sera le 18 octobre pour Tunkor. Vous pouvez déjà précommander votre album sur le site d'Imouvrini, www.imouvrini.com. Et notez que Jean-François Bernardine sera mon invité dans Les Experts mardi 8 octobre pour parler non-violence.
RCFM, Les Experts, 04 95 32 22 22.
On parle aujourd'hui de smartphone. On se dit, est-ce qu'on est addict ou pas quand on a notre téléphone en permanence à la main et qu'on ne peut plus s'en passer? Des éléments de réponse avec Amandine Lukiens, psychiatre et addictologue aujourd'hui. On a un message de Jeanne, Amandine. Les réseaux sociaux, le téléphone mobile, c'est aussi un moyen de se créer une identité différente de ce que l'on est vraiment. Est-ce que les addicts au smartphone sont des individus qui manquent de confiance en eux quelque part?
Alors, c'est une question intéressante. Encore une fois, c'est un truc que je me répète, mais ça dépend quelle identité on va se créer sur quoi. Par exemple, le gaming, donc ce que je peux faire sur mon téléphone. Souvent, je vais avoir pour des jeux qui sont dans des univers immersifs avec ce qu'on appelle massivement multijoueur et donc le jeu continue même quand je me connecte pas. En fait, souvent les personnes utilisent un avatar en fait pour jouer qui a des multitudes de compétences et de caractéristiques et qui effectivement en fait sont souvent les compétences que je souhaiterais avoir dans la vraie vie où je vais pouvoir potentialiser toutes mes compétences et être plus sûre de moi. Donc c'est des personnes qui peut-être manquent soit de confiance en eux ou ont des difficultés de socialisation. Ça peut être aussi une façon un peu de compenser entre guillemets, donc soit fonctionnel, soit dysfonctionnel, et encore une fois ça dépend comment je m'en sers. Ce qui a été montré aussi récemment, c'est donc plus sur l'utilisation des réseaux sociaux, en fait. Effectivement, il peut y avoir une certaine insécurité en fait dans la relation à l'autre qui va dans la façon dont moi j'ai appris à construire mes relations avec les autres. Et donc on sait que les personnes qui ont un mode relationnel plus insécure, donc qui sont un peu anxieux dans la façon dont en se disant mais est-ce que les autres sont aussi attachés à moi que moi je suis attachée à eux, donc qui sont un peu souvent dans l'incertitude en fait dans la façon dont ils vont s'attacher à leurs proches. Plus avoir tendance à utiliser les réseaux sociaux, mais dans quelque chose qui n'est pas forcément très fonctionnel et qui est très associé à un certain mal-être, en fait, et où va y avoir comme ça un peu comme le besoin, en fait, de se rassurer, ce qui ne va pas forcément être possible dans la vraie vie. Donc, c'est vrai que je peux, dans les réseaux sociaux, ça va se manifester de cette manière-là, puisque j'attends tout le temps un retour, en fait.
Des likes sur une photo.
Voilà, on attend des likes, comme encore une fois. Alors que dans la vraie vie, vous n'allez pas sans arrêt, ça va être difficilement acceptable pour vos proches que vous les appeliez toutes les deux minutes pour dire j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses.
Donc, est-ce que tu me likes ou pas?
Voilà, ça serait carrément invivable, la vie serait complètement infernale. Donc en fait, ce mode de fonctionnement en fait va se manifester, on va dire, plus via les réseaux sociaux et encore une fois peut témoigner d'une certaine insécurité dans la relation qui peut se modifier à l'âge adulte si on en prend conscience pour se sentir globalement mieux quoi.
Donc en fait clairement ce qu'on dit depuis ce matin c'est que on n'est pas addict au téléphone vraiment ou à notre tablette, c'est on est addict à ce qui se passe à l'intérieur, aux réseaux sociaux, aux applications. Mais c'est vrai que c'est pervers parce que on parle pas d'addiction. OK, mais il y a quand même ce qui se passe dans le téléphone peut quand même, vous le disiez à l'instant, conduire à de l'angoisse quand même, parce que ceux qui attendent des likes sur une photo ou quoi que ce soit, s'ils en ont moins, je regardais une émission là-dessus d'ailleurs l'autre jour, s'ils en ont moins, ça peut jouer effectivement sur leur humeur, sur leur façon d'être, donc il y a quand même un impact.
Oui, alors en fait, le lien de causalité est pas si simple à établir. On ne sait pas où est la poule, où est l'œuf. Encore une fois, comme je vous disais là, ce qu'on suppose d'après les données qu'on a pu montrer, c'est qu'un attachement insécure va se manifester. Chez quelqu'un qui va utiliser les réseaux sociaux par un usage excessif, parce que du coup, il va être particulièrement sensible au retour qu'il va avoir des par exemple de ses posts ou des choses comme ça. Plus il y a un mal-être existant, plus vont se manifester cette attachement attente, cette peur de rater quelque chose, etc., et d'être dans l'attente en fait d'un retour et d'être rassurée dans la relation. Donc
c'est la fragilité dont vous parliez tout à l'heure en fait.
Voilà, donc en fait on ne sait pas quelle est la poule, quelle est l'œuf. Parfois en fait ça marche dans les deux sens. Et donc, il faut faire attention aussi de pas établir des liens causaux, en fait, alors qu'en fait, la question se pose plutôt en sens inverse. Donc, les deux sont possibles, et pour le moment, il faut quand même rester très prudent parce qu'on manque aussi un peu de données pour caractériser ça de façon vraiment bien solide au niveau scientifique.
Alors, on a une dernière question, on ne pourra pas en prendre d'autres puisqu'on arrive bientôt déjà en fin d'émission. J'ai un ami qui choisit la destination de ses vacances selon le Wi-Fi et la couverture réseau. Faut-il que je lui dise d'aller consulter ?
Alors effectivement, là on encore une fois c'est intéressant cette question parce que ça montre à quel point c'est hétérogène ce qu'on met sous intitulé de par exemple l'addiction à Internet, puisque là si on resitue ce que dit cette personne, donc qu'est-ce qu'il fait sur Internet? Est-ce qu'il joue à des jeux vidéo? Est-ce qu'il travaille par exemple? Donc encore une fois, c'est
si vous partez en vacances, question, ce n'est pas pour travailler.
Voilà, est-ce qu'en fait c'est parce qu'il est tout le temps sur les réseaux sociaux et que il supporte pas d'être en zone blanche parce qu'il va pas pouvoir voir combien il a de likes. Donc encore une fois, faut savoir ce que fait cette personne en vacances avec Internet. Mais effectivement, ça peut poser des questions sur le mode de fonctionnement et surtout sur la capacité en fait à lâcher prise et être dans des moments où si je suis à un endroit nouveau, je vais vraiment profiter de mon expérience dans cet endroit nouveau et peut-être quitter aussi mon quotidien. Donc là on est plus dans des, peut-être aussi il faut évoquer les notions de lâcher prise et puis de bien-être global en fait pour éviter d'être tout le temps dans la double tâche et puis profiter d'être des moments où on est vraiment pleinement en train de faire ce qu'on est en train de faire.
Lâcher prise, bien-être. Priscilla Loé, vous êtes hypnothérapeute, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. On parle nomophobie. Alors, on disait que c'était pas forcément le cas. On n'est pas forcément addict à son téléphone, mais à ce qui se passe à l'intérieur. Vous êtes hypnothérapeute. Vous recevez à votre cabinet des gens qui ont cette pathologie, entre guillemets.
Alors ça peut être notamment par le jeu qui se trouve sur un téléphone.
C'est ce que disait Amandine, oui.
Ouais, et dans le livre même que j'ai écrit, l'hypnose pour qui, pourquoi, vous avez un extrait où la personne est venue pour un trouble de la sexualité.
C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure dans le sujet.
Dans l'étude, oui, tout à fait. Et c'était un trouble de la sexualité, donc plus d'envie pour sa partenaire et un problème d'érection. Derrière, c'était une addiction au jeu. En arrêtant l'addiction au jeu, il a retrouvé une sexualité épanouie. Donc lui, il y a des consultations et les gens viennent soit parce que je joue trop, je suis trop sur mon téléphone, soit pour un autre problème.
D'accord.
Et la conséquence.
D'accord. Donc du coup, et vous faites vous le lien en fait entre ce problème et le téléphone, enfin du moins ce qui se passe à l'intérieur, quoi.
Oui, c'est ça. Alors il y a pas de règle, hein. C'est au cas par cas, mais il peut en effet y avoir des liens du fait de cette addiction ou de ce trop. À partir du moment où la personne est trop dessus à son sens ou elle n'arrive plus à s'en défaire, il y a problème.
Donc Amandine, il n'y a pas vraiment un temps à passer sur son téléphone, parce que vous le disiez, si on travaille, ça n'a pas la même. C'est bénéfique, quoi. Enfin, bénéfique entre guillemets, mais on n'a pas à se dire un temps. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui sur les téléphones, je parle notamment sur le mien, sur l'iPhone, il y a une application temps d'écran et on peut bloquer effectivement. À 3 heures, hop, on peut plus utiliser telle ou telle application. C'est vraiment au cas par cas.
Effectivement, un écran, c'est vraiment un support. Quand on voit qu'en fait on peut lire des livres en fait sur son téléphone, vous n'allez pas forcément vous dire il faut que je lise moins de livres en fait, si c'est ça votre activité principale. Donc l'écran en lui-même est pas forcément un énorme problème, à la limite près que en fait les écrans des téléphones sont diffusent une lumière qui en fait stimule le cerveau et donc sont à prohiber avant le sommeil, dans l'idéal 2-3 heures avant. Donc c'est rarement faisable chez les gens, mais on conseille au minimum 1 heure avant, ou en tout cas de mettre un filtre sur son téléphone, pour un filtre lumière bleue, pour éviter en fait de réveiller le cerveau au moment où il est censé comprendre que c'est le soir. Donc ça, le problème à l'écran est spécifique quasiment à enfin pas spécifique, mais une des parties, c'est cette question de lumière qui allume le cerveau. Mais évidemment, si vous regardez aussi, par exemple, les informations juste avant de dormir et que vous apprenez toutes les catastrophes de la Terre, vous allez plutôt être dans un moment où vous allez être plus anxieux. Donc voilà, il faut choisir un peu ses activités selon le moment, que ce soit à travers un écran ou pas à travers un écran.
D'accord. Mais il n'y a pas vraiment un temps d'écran aujourd'hui. Voilà, c'est pas 3 heures, 4 heures, 6 heures, non. Voilà, c'est vraiment propre à chaque personne.
Il n'y a pas d'écran pour, il n'y a pas forcément de temps pour les adultes, parce que du coup,
oui, pour les adultes,
ça va dépendre des types d'activités qu'on a. Il faut surtout se poser la question de est-ce que ce que je suis en train de faire est utile ou non. Et après, est-ce que ce que je suis en train de faire me fait plaisir ou non, ou en fait juste me sert à perdre mon temps. Donc ça, c'est des questions principales. Après, chez les enfants, par contre, il y a des temps en fait d'écran qui sont recommandés, notamment pour des questions de développement psychomoteur en fait.
Hein, bien sûr.
Chez les tout petits.
Et ça, c'est autre chose.
Du tout d'écran. Mm-hmm. Et, voilà. Et puis après, il faut toujours faire attention aussi au fait que l'écran rend sédentaire par rapport à d'autres activités. Il peut y avoir des problèmes de poids associés.
Bien sûr. Priscilla, du coup, quand quelqu'un vient vous voir, comme c'était le cas, bon, j'ai lu votre livre, donc je vous invite tous à lire le livre, hein, L'hypnose, pour qui, pourquoi. Vous comprendrez pas mal de choses sur l'hypnose. Vous traitez ce genre de choses, du coup, cette addiction qui n'en est pas encore vraiment une, vous les traitez en hypnose ?
Tout à fait, et ça se traite en moyenne en 1 à 3 séances, comme tout objectif en hypnose. Donc selon ce que demande la personne, stopper l'addiction aussi, elle a elle-même vu qu'il y avait un problème de dépendance, soit le problème, donc là je parlais de la sexualité, et en travaillant sur la résolution de la sexualité, on résout le problème d'addiction du trop. D'ailleurs, aussi, il y a des personnes qui ont des addictions sur les sites de rencontres. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas dans la vraie vie à aller à la rencontre de quelqu'un.
Oui, c'est ce qu'on disait avec Amandine. Oui.
Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant des fois de travailler la confiance en soi. Dans la vraie vie, je suis capable de rencontrer quelqu'un et j'ai pas besoin d'être des heures sur mon téléphone et à louper beaucoup de conversations qui peuvent être intéressantes en face à face avec des gens.
Oui, parce qu'on dit que ça peut développer, on dit tout à l'heure, des relations sociales, mais moi, quand je vois tous ces gosses devant le lycée ou dans le collège, ils ne se parlent pas, ils sont sur leur téléphone, ils ne se parlent pas. Je ne sais pas si vraiment ça développe les relations sociales. À l'époque, on se parlait face à face. Là, limite, ils sont l'un à côté de l'autre, ils ne se parlent pas WhatsApp, quoi.
C'est ça. C'est ça. Ouais, moi, j'ai une vision aussi qui est plutôt négative qui revient ce que vous venez de dire. Ouais.
Voilà. Bon, on arrive déjà en fin d'émission. Merci beaucoup, Amandine Lucas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Priscilla.
Merci.
Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr lundi pour une nouvelle émission Les Experts. On parlera de la CPAM. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà, nous envoyer toutes vos questions sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
France Bleu RCFM.